les autres, reconnaître ceci, intercéder pour cela. Et je crois que c'est ça l'Église, hein, c'est être une famille. Et j'aimerais juste vous dire aussi, on a prié aussi pour Elisabeth, j'ai eu quelques nouvelles d'elle ce matin, et je transmettrai ses nouvelles au niveau du mailing internet de l'Église. Comme ça, vous en saurez plus. Il y a deux pages où elle explique un peu où elle en est, etc. Donc voilà, on veut continuer à prier pour elle. Alors, pour ce matin, c'était un peu délicat. Vous savez que parfois, quand on prépare un message, parfois ça vient tout seul. Et parfois, vous êtes là, vous ramez. Alors hier après-midi, j'étais là l'après-midi, alors j'ai commencé des études, la foi, Hébreux 11, tout ça, et puis j'ai bossé, puis j'étais pas content, paf, je change de truc, j'ai un autre sujet, et puis ça vient pas. Et ce matin, bien sûr, à 6h du matin, une autre idée, voilà, c'est vraiment, parfois ça c'est très rapide, parfois c'est plus long, voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose de frais, comme les croissants, hein, le dimanche matin. Voilà, et en fait, j'aimerais vous partager, c'est un peu la continuation de ce qui a été vécu au niveau du pays et de ce qu'on a intercédé ici par rapport à nos autorités. Donc on a eu nos présidentielles et on a prié pour cela. Ceux de l'Église qui ont participé à l'intercession que proposait Georgina Dufoy, c'est-à-dire prier pour les personnes en tant que personnes, hein, au-delà des programmes, on veut s'intéresser aux gens et les porter, et c'est ce qui a été fait. Il y a eu beaucoup d'intercessions dans la nation. Et maintenant, j'aimerais donner quelques lignes sur la suite à donner par rapport à ça. Et en fait, le rôle de l'Église, le rôle de nous chrétiens par rapport à ce domaine-là de la politique. Et vraiment, il y a plusieurs pistes que j'aimerais vous donner qui sont du domaine de notre responsabilité. Puis en même temps, il y a aussi des pièges là-dedans. Il y a des domaines aussi qui ne sont pas de notre responsabilité. Et voilà un peu quelque chose. Alors, plusieurs points. Et le premier point que Dieu veut nous rappeler à nous, Français, particulièrement Gaulois, c'est le développement d'une attitude de respect par rapport à nos autorités. Et vous voyez, si vous allez dans n'importe quel bar, café, je ne sais pas s'il y en a qui y vont d'ailleurs, mais bon, voilà. C'est pas un péché en soi, hein, mais si vous voulez la température du pays, parfois c'est là qu'il faut aller. Et là, en fait, on entend souvent, ils sont tous pourris, ces politiques, ils sont là que pour pognon, ils n'ont qu'à augmenter, diminuer ça, et les promesses qu'ils ont faites. Vous voyez, c'est toujours de la critique qu'on entend. Et vraiment, ce cynisme, cette critique, c'est l'arme des impuissants, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Et Dieu ne veut pas qu'on soit une église impuissante. Donc, si on n'est pas impuissant en tant qu'église, eh bien, on va avoir un autre discours que ce discours-là. Et puis, il y a aussi le discours de la passivité. De toute façon, on ne peut rien faire, c'est comme ça. On est résigné, on n'arrivera jamais à faire avancer les choses. Vous voyez, donc, critique, passivité, tout ça, ce n'est pas l'attitude qu'on doit avoir. Et je crois que le Seigneur veut qu'on apprenne à honorer. Quelle est la dernière fois où tu as entendu des paroles de reconnaissance par rapport à tes dirigeants dans notre pays? Parfois, il faut attendre longtemps. On se dit, mais quand c'est que j'ai entendu Seigneur, il est super, c'est bien ce qu'il a fait. C'est rare, quoi. Hein, Alors bon, ça, cette attitude-là, il est évident que pour qu'on puisse prier pour quelqu'un, il est évident qu'il faut développer un minimum de reconnaissance. Hein. Sinon, c'est très difficile de prier pour quelqu'un. Donc, ça commence par une attitude envers nos autorités, une attitude de respect, de reconnaissance. Et je cite Calvin dans le quatrième livre de l'Institution, il dit « Nous devons tous à nos dirigeants un sentiment de respect, quelle que soit leur personnalité. Je le répète afin que nous apprenions à ne pas ergoter sur la personnalité de ceux auxquels nous avons à obéir. » Donc vous voyez cette attitude de respect. Et vous savez, au temps de la Réforme, ils avaient pourtant un roi, et un roi même qui les a persécutés. Et c'est étonnant de voir que jusqu'au bout, ils ont gardé le respect. C'est incroyable. Ils étaient maltraités. Jamais ils ont dit du mal de leur roi. Et ça, c'est une attitude qui a été l'attitude de la Réforme en France. Et je pense que là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose à redécouvrir. Quand les autorités prennent de bonnes décisions, elles ont aussi droit à des encouragements, à l'expression de la reconnaissance. Et un petit mot, ça peut être je ne sais pas, un petit mot, une lettre à un député ou autre. Mais je crois qu'il y a ce côté-là. Voilà. On est avec, on ne soutient pas forcément un programme, mais on prie pour vous. Voilà, donc une attitude, première chose. Deuxièmement, une prière. Et vous savez, bon, on ne va pas revenir trop, mais dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, il est dit « Avant toute chose, faites des prières pour les autorités. » Avant toute chose, c'est quand même étonnant. Comme s'il n'y avait pas des choses prioritaires. On a quand même des choses qui sembleraient prioritaires. Il y a des malades au milieu de nous. Il y a, voyez, mais la Bible nous dit « Avant toute chose, prie pour les autorités, afin qu'il y ait la paix, etc. » Dans ce « avant toute chose », il y a une priorité de Dieu. Et Dieu, je crois qu'il faut garder ce cœur-là, garder cette attitude-là, garder ce grand mandat. Alors, est-ce que les politiques sont responsables de toutes les œuvres mauvaises? Ben non, nous sommes responsables. Et je veux dire, souvent on entend dire « nous avons les gouvernements que nous méritons ». Bon, quelque part, il y a quelque chose de juste là-dedans. Attention, on met des guillemets aussi. Hein. Mais je crois qu'il faut tenir hein, nos hommes politiques et prier pour eux, quel que soit. Donc, même si on est déçu par rapport à qui a été élu, mais nous devons soutenir ces gens-là. Donc ça, c'est vraiment important. On voit trop souvent des voyants, des astrologues, qui sont souvent auprès des rois, des présidents, encore récemment. Si les prières et notre témoignage n'accompagnent pas nos hommes politiques, d'autres, je peux vous assurer, ils les accompagnent, eux. Hein, et ils ne perdent pas leur temps. Donc il faut qu'on ait ce regard-là, cette attitude du cœur. Voilà, ça c'est une chose, bon, je ne vais pas trop revenir. On veut prier pour eux. Alors, on a perdu le droit de les critiquer pour les critiquer. Vous voyez, il y a deux sortes de critiques. Il y a critiquer, et c'est le prophète qui critique. Et là, il y a un rôle de l'Église qui est à dénoncer l'injustice, etc. Mais il y a critiquer pour critiquer, et ça, il faut arrêter avec ça. Hein. Et je crois que, voilà, il y a une bonne critique qui est celle qui vient de Dieu, qui est un vouloir accompagner, vouloir aider, vouloir soutenir, et vouloir avoir ce rôle prophétique qu'on va voir maintenant un petit peu. Et c'est l'influence prophétique de l'Église qu'on doit garder. Et là, vous avez le texte de la matinée, c'est 2 Rois, chapitre 13, versets 15 à 17. Donc 2 Rois, chapitre 13, versets 15 à 17. Alors, c'est le passage avec Élisée. Et je crois que c'est le texte que Dieu veut nous rappeler. En ce lendemain d'élection, Élisée va voir un roi. Le roi, il lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Là, nous avons l'image de l'attitude de l'Église par rapport aux dirigeants. Voyez, ce n'est pas l'Église qui tient l'arc, vous avez remarqué. C'est bien le roi qui tient l'arc, hein. Ce n'est pas Élisée. Mais Élisée, il met les mains sur les mains du roi. Il accompagne ce geste. Et les mains sur les mains de nos hommes politiques, c'est l'attitude de l'Église. Et en même temps, il a encouragé ce roi. Il a dit, voilà, tu as dans tes mains une flèche de délivrance. On voit le rôle de l'encouragement. On voit aussi... Il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient ». Et là, nous avons cette flèche qui parle de l'avenir. Qui parle de l'avenir. Aujourd'hui, des décisions se prennent pour l'avenir. Et nous avons un rôle dans le sens d'accompagner le gouvernement. Mais le gouvernement garde sa place. Le grand péché de l'Église, souvent, c'était de vouloir prendre le pouvoir. Et ça, c'était catastrophique. On le voit catastrophique dans l'Église catholique, on le voit même chez les réformés. L'Église a toujours été tentée de prendre le pouvoir et de confondre les choses et de confondre le royaume de Dieu avec le pouvoir politique. Et ça, c'est la grande tentation de tous les siècles de l'Église. Et donc, ce n'est pas là notre rôle. Mais en même temps, on ne peut pas se désolidariser de ce qui est vécu dans la nation. Et là, c'est le rôle prophétique, accompagner, les mains sur les mains, regarder dans une même direction de l'avenir du pays, avoir un même fardeau, etc. J'aimerais citer quelqu'un qui est ministre aujourd'hui, qui s'appelle Christine Boutin, et elle dit ceci, « L'Église ne doit pas se substituer au rôle de l'État, ni régenter l'organisation de la vie civile, mais elle a l'obligation de parler pour que les responsables du pouvoir politique puissent choisir. Parler, donner la parole, libérer la parole. C'est quoi la justice ? C'est quoi le droit ? C'est quoi l'équité ? Qu'est-ce que nous dit la parole dans ce domaine-là ? Donc c'est cette voix de l'Église qui est une voix prophétique, c'est dire la parole, d'où l'importance de la connaître, cette parole. Et parfois, ce n'est pas évident. Parfois, dans des situations, ce n'est pas les principes de la Bible qui vont nous dire tout ce qu'il faut faire. Nous avons besoin d'une sagesse, c'est-à-dire l'application, comment je vais appliquer ces principes dans la vie de tous les jours. Et là, il y a une sagesse qu'on veut délivrer. La Bible nous dit, c'est par l'Église que la sagesse infiniment variée de Dieu se manifestera. Eh bien, nos gouvernants ont besoin de l'expression de la sagesse qui est en Dieu. Et cette sagesse, elle est diverse. Chacun d'entre nous, on en a une couleur différente. Et pourtant, c'est cette sagesse qu'il faut libérer, qu'il faut manifester. Voilà le rôle de l'Église. Non, ne pas régenter, ne pas tout diriger, ne pas gouverner au niveau politique, mais accompagner ce gouvernement. Donc, en fait, on est souvent tombé dans l'histoire entre deux extrêmes. Ceux qui disent « Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, donc ce monde, je m'en fiche. » Et ça a été une attitude aussi de beaucoup de groupements et de gens déçus. Puis il faut voir, parfois dans des époques de l'histoire, c'était tellement corrompu, tellement qu'on peut comprendre ces gens-là qui disent « Mais ce monde, il n'y a plus rien à espérer. Et mon espérance, je la mets dans le ciel. » Et donc c'est une réaction par rapport à la dureté, aux persécutions parfois. Et donc une église qui se déconnecte du monde est souvent une église qui a tellement souffert. Et on comprend. Alors, le royaume n'est pas de ce monde, alors du coup, on ne va pas s'en occuper de ce vilain monde. Et puis, parfois, eh ben non, c'est l'Église qui dit, ben oui, il faut y aller, il faut tout défoncer, il faut établir le royaume de Dieu sur cette terre. Mais avec cette parole d'établir le royaume sur cette terre, on utilise des moyens humains et pas les moyens de Dieu. Et c'est alors les croisades, etc. Ça a été aussi le péché de l'Église. Alors, voyez, nous devons nous trouver dans cette dynamique qui est entre les deux. Et le entre les deux, c'est quoi ? Ben, c'est le rôle prophétique de l'Église qui accompagne, qui dit la parole et qui soutient, qui met les mains sur les mains, qui accompagne les gouvernants. Voyez ? Alors, voilà une chose importante. Et actuellement, par exemple, au niveau de l'Alliance évangélique, on parle du défi de Miché, qui est un mouvement mondial, qui veut rappeler aux dirigeants de ce monde les engagements qui ont été pris en l'an 2000. Et l'an 2000, c'était les chefs d'État de 191 pays qui se sont engagés sur 8 objectifs de développement, la réduction de la pauvreté, etc. Donc, le rôle des prophètes, comme le rôle de Miché, qu'on voit ici, ça a été de rappeler aux rois qu'ils ne sont pas indépendants, qu'ils ne sont pas autonomes, et qu'il y a une justice de Dieu. Et cette justice, Dieu veut les utiliser, Dieu veut les bénir, Dieu veut travailler au travers d'eux par rapport aux besoins de la société. Mais le prophète, il est là, il accompagne le roi. Dans les rois, au temps des rois d'Israël, ils étaient accompagnés de deux types de personnes, les prophètes et les sages. C'était les deux ministères, c'était des gens qui étaient payés pour ça. C'était les prophètes et les sages. Les rois gouvernaient avec ces deux. Et vu qu'on a laissé l'Église, a abandonné ce terrain-là, et on l'a laissé donc aux astrologues et aux magiciens qui eux-mêmes aujourd'hui malheureusement accompagnent bien, bien des rois et des politiques. Et donc le rôle de l'Église, c'est de retrouver cette dimension prophétique. Martin Luther disait ceci, « Si vous prêchez l'Évangile dans tous les aspects, à l'exception des questions spécifiques de votre temps, vous ne prêchez pas tout l'Évangile. » Voyez ? On prêche des aspects, mais on oublie les questions qui sont les grandes questions, les grandes qu'ont les hommes de notre temps. Eh bien, si l'Église ne répond pas, ne cherche pas à répondre aux questions d'aujourd'hui, elle ne prêche pas tout, elle prêche l'Évangile. Et donc, prêcher l'Évangile, c'est aussi donner des idées. C'est aussi transmettre un goût de la justice. C'est aussi rappeler les normes de Dieu. Voyez, donc voilà. Alors, il nous faut, en tant que chrétiens, avoir une perspective biblique juste de l'État, de qu'est-ce que l'État, quel est son rôle. Et ça, il faut connaître notre parole. Sinon, on va ou laisser tout faire, ou se déresponsabiliser de domaines qui nous reviennent à nous. Et c'est ça le problème. Alors, prier pour le gouvernement, c'est une chose, mais notre prière sera d'autant plus juste qu'on aura une vision bien biblique de quel est le rôle de l'État dans la Bible. Et quel est là où, quelles sont les limites aussi. Par exemple, Dieu a institué la famille. C'est une institution de Dieu, la famille, comme l'Église. Eh bien, si un jour, l'État veut remplacer la famille ou l'Église, on est en dehors des normes et des limites que Dieu a données. Et c'est pour ça que je relèverai quand même le point de l'éducation. Jamais Dieu l'a confié à l'État. Jamais. Mais on a des gens autrefois nous ont dit, oui, c'est l'État qui doit faire ça. Et puis les hommes se sont fait prendre par les philosophies de ce monde. Et alors on s'est déresponsabilisé parce qu'on avait une mauvaise conception de son rôle. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous parfois, peuvent concevoir que l'État, c'est comme un parapluie avec toutes les branches et il s'occupe de tous les domaines de ta vie. Depuis le bébé jusqu'à l'âge adulte, le vieillard, il s'occupe de tout, il régit tout. Et dès qu'il ne s'occupe pas d'un domaine, on dit « mais qu'est-ce qu'il fait cet État ?» Et ça, excusez-moi, c'est une fausse conception de l'État. Et à cause de cette fausse conception, nous ne prenons pas nos responsabilités. Et on voit que dans le rôle de l'Église, c'est vrai, au niveau des veuves, des orphelins, au niveau de l'éducation, des enfants, tout ça, il y a des mandats très clairs que Dieu a donnés à son Église. Quand Dieu dit à son Église « tu vas enseigner », c'est à l'Église d'enseigner. Vous voyez ? Si ce n'est pas l'Église qui enseigne, c'est d'autres qui enseignent. Donc, ayons une conception juste de l'État, ça va nous aider à être juste dans la prière. Ça va nous aider à être vigilants également dans la prière. Donc, tout système politique qui prend en charge l'homme complètement, qui l'assiste complètement partout, nous sortons d'un cadre biblique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses bibliques que les gens véhiculent aussi, mais il nous faut avoir ce fondement biblique. Il nous faut des critères bibliques pour commencer à réfléchir et à distinguer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Notre critère, c'est la parole de Dieu. Et le rôle prophétique, les prophètes, ils la connaissaient, leur parole. Et c'est à cause de ça qu'ils avaient une autorité pour rappeler au roi leur rôle. Vous voyez ? Donc on voit que dans l'Ancien Testament, eh bien, les États étaient là pour maintenir les relations entre les peuples, hein, des bonnes relations, contre les agressions de l'étranger. Donc il fallait maintenir une sécurité, il fallait que les gens soient libres. Le rôle du gouvernement dans la Bible, c'est que les gens soient libres d'accomplir le mandat que Dieu leur a donné. Que l'Église soit libre d'accomplir le sien, que la famille soit libre d'accomplir le sien. Voilà, c'est ça le rôle. Vous voyez, qu'il y ait la paix, il y ait l'harmonie dans tout cela. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais pas d'usurper ce que Dieu a donné à la famille et à l'Église, par exemple. Alors, faciliter les relations entre les individus, entre les hommes, voilà, ça, c'est l'autorité. Et nous avons les prophètes dans la Bible. Alors, là, vous en avez beaucoup. Je vous passe les détails de la Bible. Mais dans Michée, chapitre 3, il est dit, Michée parle, je dis, écoutez, chef de Jacob, prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître la justice ? Vous haïssez le bien, vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair au-dessus des os, etc. Et là il dénonce les usurpations de l'État. Et ça reste le rôle de l'Église, de dénoncer. Non pas pour condamner, mais pour amener en fait la justice. Et le rôle de l'État, bibliquement, c'est d'exercer la justice. D'ailleurs, ce n'est pas à l'Église que Dieu a donné l'épée pour condamner ou tout ça, c'est à l'État qu'il l'a donné, au gouvernement. L'Église n'a une autre épée, c'est la parole de Dieu. Mais l'épée pour condamner, pour exercer la justice, c'est le gouvernement qui l'a. Donc Jésus nous a dit, tu dois craindre ces autorités, c'est elles qui ont l'épée. Mais nous avons une autre épée, donc d'autres moyens pour exercer la même justice. Mais c'est d'autres moyens. Voyez. Donc l'exercice de la justice, rappeler la justice. Et aujourd'hui, l'Église doit continuer à se lever contre les injustices. Ça fait partie de son mandat. Mais attention, en utilisant les armes et les moyens de Dieu. Par exemple, en Amérique du Sud, il y a eu une théologie qui est ce qu'on appelle la théologie de la libération. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée que c'est le Christ communiste quoi, hein, qui va venir sur cette terre. Et l'espérance des gens, elle est sur cette terre, que sur cette terre. Attention, si notre espérance n'est que sur cette terre, nous sommes à côté de la plaque. Mais en même temps, si notre espérance n'est que dans le ciel, on est à côté aussi. Et c'est comme le geste qu'a fait Cyril, une main vers le ciel, une main vers la terre. C'est ça. Le règne de Dieu, c'est un règne dans le ciel et un règne sur la terre. Et nous vivons cette tension entre les deux. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à faire venir le ciel sur la terre et à réconcilier cette terre avec le ciel. Alors, ça ne sera jamais parfait avec nos yeux humains. Ça ne sera jamais parfait. Il faudra le retour de Jésus pour que ça soit parfait. Mais nous sommes appelés à être un peuple prophétique, c'est-à-dire on annonce quelque chose. On est appelé à être la lumière, le sel du monde. L'Église, même dans ce qu'elle vit, elle annonce les noces. Le premier miracle de Jésus, ça a été les noces. Alors il y a des gens qui pensent, ben oui, les noces, c'est parce que Jésus veut que les jeunes mariés soient heureux. Alors c'est beaucoup plus que ça. Jésus, il a commencé son ministère en annonçant un repas, une gigantesque fête entre son Église et son Père. Et ça, il l'annonce déjà dès le départ. Et en tant que l'Église, nous voulons annoncer. Vous voyez, c'est un peuple qui annonce. On n'a pas les prétentions d'établir le règne de Dieu sur cette terre complètement. Mais nous annonçons par ce que nous faisons, par qui nous sommes, par des témoignages prophétiques d'une communauté, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle peut avoir comme impact dans la cité. Ce sont des annonces de quelque chose qui vient, qui est plus grand encore. Mais nous sommes là, nous ne sommes pas là pour prendre le monde. Vous voyez, comme des guerriers ou comme des... Je ne sais pas quoi. C'est attention à cette image-là. Donc nous ne voulons pas basculer d'un côté ou de l'autre, mais être comme des Michées. Et ce rôle, c'est un contre-pouvoir quelque part. Le rôle des prophètes, c'est un contre-pouvoir. Dès que le roi y déraillait, il avait affaire aux prophètes. Et dit, ça suffit là maintenant. T'es à côté de la plaque. Quel courage il fallait pour dénoncer. Nous avons eu ce rôle de prophète, les coups de gueule, excusez-moi l'expression, mais de l'abbé Pierre, ça a été ce rôle prophétique de l'Église. Qu'est-ce que vous faites des exclus? Là, nous avons un rôle de l'Église. Et nous avons un rôle de l'Église avec des Martin Luther King qui disaient « Mais c'est quoi cette iniquité dans cette nation ?» Et ça, c'est le rôle de l'Église, voyez. Mais il n'a pas eu la prétention d'établir le règne de Dieu sur la terre. Il a dénoncé les injustices. Donc, voyez, ce rôle de l'Église, il est vraiment... Attention, il nous faut connaître quel est ce rôle de l'Église, quel est ce rôle de l'État, pour que vraiment il n'y ait pas non plus de confrontation. Et en même temps, Dieu nous dit « Sois soumis aux autorités ». Mais il dit aussi aux autorités, tu n'es pas indépendant. Le roi, le seigneur des seigneurs, c'est Dieu. C'est Dieu. Et à partir du moment où il y a une crainte de Dieu qui est partie, c'est là qu'on arrive à des extrêmes, où l'apôtre Paul dit, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Quand on arrive à des situations extrêmes, il s'agit de résister. J'aimerais quand même rappeler que des Français ont été condamnés parce qu'ils ont obéi à un gouvernement qui était le gouvernement de Vichy, qui a été inique. Et des gens ont été condamnés, et ils ont dit, mais nous sommes soumis. Et c'est là que dans la Constitution, il y a même ce droit de désobéissance, dans des situations extrêmes, où c'est vraiment quelque chose d'inique qu'on nous demande de faire. Vous voyez, donc, attention à toutes ces nuances que la parole de Dieu nous donne, et qui sont clairement, clairement établies par le Seigneur. Alors, vous voyez, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'indifférence, et à ne pas tomber non plus dans l'idolâtrie. Il y a des gens qui pensent que la politique va changer les choses complètement. Hélas, excusez-moi, mais il y a le risque de l'idolâtrie. Le risque de l'idolâtrie, c'est quand on prend un domaine de la création, la politique par exemple, l'argent ou d'autres domaines, et on investit tous nos efforts dedans, toute notre espérance dedans, et là on glisse, là on dérape, là c'est terminé. Donc attention, l'investissement que l'on met dans les choses. Le Seigneur nous dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Il n'a pas dit, cherche à faire de la politique, tu vas changer les choses. Il a dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Et ça, c'est très important. Il me semble qu'actuellement, le risque, c'est l'activisme au niveau de l'Église. Il y a un risque d'activisme, de vouloir faire les choses, changer les choses, tout ça. Et il y a quelque chose de bon là-dedans. Mais attention, attention. Et ça, c'est vraiment, en préparant ce matin, je voyais cet équilibre. Il y a un homme qui s'appelle, alors, il est né en l'an 200, il est de 190 de notre ère, donc c'était un des pères de l'Église, il s'appelle Dioniète. Vous avez entendu Dioniète, ça vous dit quelque chose? Dioniète, c'est un vieux connu. Il a dit ceci, le chrétien prendra moins soin du monde et en même temps davantage soin du monde que la personne qui n'est pas chrétienne. Il ne perdra pas son cœur en lui. C'est-à-dire, il ne va pas se fondre dans le monde, se perdre dedans, se préoccuper seulement par le monde. Hein. Il ne met pas son cœur en lui. Mais il pourra perdre sa vie pour lui. Vous voyez ? Le chrétien, il ne s'identifie pas au monde. Mais le chrétien, il aime tellement ce monde, comme Jésus, qu'il est prêt à se donner pour lui. Vous voyez ? Donc là, on a l'équilibre. Vous voyez ? Là, on a l'équilibre. Jésus a tant aimé le monde. Mais pourtant, sa préoccupation, c'était les affaires de son Père. Mais il n'était pas dans les nuages. Il marchait sur la terre. Mais il était préoccupé des affaires de son Père. Donc là, on a la tension. Jésus est l'exemple vivant de la tension entre le monde qui veut sauver et les affaires de son Père qui le préoccupaient seulement, en premier. Et là, nous devons prendre exemple sur Jésus. Donc je répète cette phrase, le chrétien prendra moins soin du monde et en même temps davantage soin du monde que la personne qui n'est pas chrétienne. Il ne perdra pas son cœur en lui, mais il pourra perdre sa vie pour lui. Voilà l'équilibre que l'on trouve dans une véritable tradition biblique de l'Église. Alors, il y a aussi un passage dans Marc 12, versets 13 à 17. Vous savez, ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens, des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, car tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César ? Devons-nous le payer ou pas le payer ?» Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda, « De qui est cette effigie et cette inscription ?»« Et de César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Alors que d'encre sur ce verset ? Je peux vous assurer, il y a vraiment de l'encre. Il y a des gens qui disent, voilà, Jésus il a voulu dire ceci, rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire rien du tout, mais à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire tout. Il y en a qui ont dit, non, il faut vraiment, César c'est important, c'est le gouvernement, il faut être soumis aux autorités, c'est Dieu qui les a placés, il faut vraiment donner à César ce qui est à César, ça c'est le monde de César, et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ils vivent dans deux mondes, un monde politique d'un côté, et puis le monde chrétien de l'autre, et deux mondes, et ça c'est pas non plus Dieu. Et puis en fait, les pharisiens c'était des hypocrites là. Dans leur vie personnelle, ils n'obéissaient pas à Dieu. Alors leur petite question, c'était vraiment hypocrite, et Jésus a voulu les rendre à leur propre piège, et c'est-à-dire leur dire, mais dites donc, toi tu dis qu'il faut rendre à César, mais attention, et toi, est-ce que tu rends à Dieu ce qui lui est dû ? C'est ça qu'il voulait souligner Jésus. Jésus voulait souligner, bon César, il y a des choses à lui rendre, et c'est bien de payer, mais et toi, est-ce que tu rends à Dieu ? Qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs ? Le cœur de Dieu, c'est de parler du règne de Dieu, de l'établir. Il parle du royaume, il vit le royaume, il manifeste le royaume. Et dans cette parole, pareil, il dit, bon, c'est bien de rendre à César ce qui est à César, mais rends à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça, c'est cette compréhension que Dieu est le Seigneur des seigneurs. Ne tombons pas dans l'indifférence devant la politique, tout ça, en portant tous nos efforts sur seulement ce qui est religieux. Et là, c'est un peu, je dirais, manque de courage quelque part, hein. Mais ne tombons pas non plus dans l'inflation du domaine de la politique et dans la mobilisation de tout par rapport à ça. Ça, ce n'est pas juste non plus. Le Seigneur nous dit, tu vas t'occuper de mon règne. Tu vas manifester mon règne. Alors, prie pour les autorités. Sois ce rôle prophétique d'accompagner ces gens par rapport à ces flèches qui sont tirées. Accompagne-les. C'est ta responsabilité. Mais en même temps, mon royaume, c'est ta préoccupation, et ta préoccupation première est de vivre et de manifester le royaume là où tu es. Donc voyez, ne confondons pas le règne que Dieu veut établir, son salut qui veut venir, et puis un soi-disant salut que la politique veut nous promettre, qui n'est pas le plein salut, qui peut améliorer bien sûr des choses, mais ce n'est bien sûr pas le salut. Donc voyez, nous sommes en tant que chrétiens, nous nous passionnons pour l'œuvre de Dieu, nous nous passionnons pour son établissement sur cette terre et nous sommes quelque part condamnés à vivre dans cette tension, voyez, entre ne pas mettre toute notre espérance sur cette terre et ne pas non plus la mettre entièrement dans les choses célestes à venir, mais vivre cette tension entre le pas encore du royaume et le déjà, il est déjà quelque part là avec nous. C'est une tension qu'on va vivre toute notre vie et qui est vraiment importante. Et quand on prie par rapport au gouvernement, je termine par là, rappelons-nous que Dieu a donné à son Église un gouvernement également. Que l'Église est aussi un gouvernement. Et de la même façon que Dieu nous dit « prie pour tes autorités », le Seigneur nous dit « mon Église, elle est appelée à gouverner ». Et elle est appelée à gouverner, je peux vous assurer, le véritable gouvernement sur les puissances des ténèbres et tout ça, c'est l'Église. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre. L'enjeu est encore quelque part plus important. D'où l'importance d'établir ce gouvernement, déjà dans notre propre vie, de gouverner dans notre vie, mais en tant que corps tous ensemble, de manifester ce gouvernement ensemble, ce gouvernement de Dieu ensemble. Et d'où l'importance de ce que nous faisons dimanche après dimanche, de ce que nous prions, de ce que nous reconnaissons, l'importance de cet établissement en juin prochain. Et ça sera, ça n'a pas été un début, il y a longtemps qu'il y a des fondations qui étaient données, mais ça complète les fondations qui étaient données. Mais ce n'est pas anodin, ce n'est pas anodin. Pour vaincre un gouvernement, il faut un autre gouvernement. La Bible me dit, le prince de ce monde, il gouverne dans ce monde, mais moi je t'appelle à gouverner mon Église et à renverser ce gouvernement. Et donc, on ne pourra jamais renverser un gouvernement si nous n'avons pas nous-mêmes un gouvernement. Voyez ? Et l'Église est appelée à gouverner. Donc ceux qui prient sont appelés à gouverner. Nous sommes appelés à pas seulement intercéder, à supplier, nous sommes aussi appelés à exercer la justice, à demander et à commander. Comme Jésus a dit, tu parleras à la montagne, elle dégagera. C'est ça le gouvernement. Nous sommes des princes et des princesses. Et nous devons, dans ces années qui viennent, avoir ce rôle prophétique, mais aussi ce rôle de prince par rapport aux dominations et aux autorités. Tu es le prince de ta vie. Tu es le prince de ton cœur. Tu es le prince de tes pensées. Tu es le prince dans ta famille. Tu es le prince dans ta région. Tu es le prince dans ta nation. Et tu es appelé à régner avec Jésus et le gouvernement de l'Église. Tu es appelé à manifester cet ordre de Dieu. Jésus a dit, enfin, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 9, le gouvernement de Dieu reposera sur ses épaules. C'est qui les épaules ? C'est son Église. La tête, c'est Jésus. Jésus, c'est la tête. Il n'y en a qu'une, c'est Jésus. Mais les épaules, sur lesquelles on met le manteau, eh bien, c'est le gouvernement de l'Église. Et le corps entier, les mains, la tête, le cœur, tout ça doit fonctionner. Mais le manteau, il est tenu, le manteau d'onction tenu sur les épaules. Et ça nous parle de ce gouvernement de l'Église, voyez. Donc les épaules, et son gouvernement n'aura pas de fin, nous dit la Bible, n'aura pas de fin. Voilà, donc nous avons un rôle tellement important. Les futures défaites probables, politiques, seront nos défaites. Les futures victoires seront nos victoires. Etc. Nous devons commencer à exercer ce règne, voyez, et à commencer à supplier quand il faut supplier, à pleurer quand il faut pleurer. Mais c'est ça le rôle. Les prophètes, vous savez, ils pleuraient par rapport à une nation qui était dans l'injustice. Ils dénonçaient, mais parfois ils s'effondraient en larmes aussi. Ils se lamentaient. Jérémie, grand prophète, s'est lamenté. Les lamentations de Jérémie, ça a été très puissant. Il y a des gens qui disent il ne faut pas se lamenter. Faux, faux. Les lamentations, c'est l'enfantement dans l'intercession. C'est ça qu'il a vécu. Et c'est ça qui a annoncé une ère nouvelle. Et ce que nous disait Godfrey il y a une semaine, il nous disait, vous savez, il y a un nouvel type de louange qui va venir, c'est les lamentations. Et ce type de louange, eh ben, c'est une intercession, c'est un enfantement. Donc les prophètes, voyez, c'était tout ça. C'était tout ça. Et tout ça, ça fait partie du gouvernement de Dieu. Voyez, dénoncer l'injustice, se lamenter dans le sens... Pas dans le sens, voyez, sans espérance, mais dans le sens enfanté, une prière de Dieu et quelque chose de nouveau sur le pays. Voilà. Alors ne tombons pas dans ces extrêmes, s'il vous plaît, de croire que tout va changer par la politique, de croire qu'on doit établir le règne de Dieu comme ça, de façon charnelle. Ça, c'est un grand, grand piège. Ne tombons pas dans l'esprit d'empire qui veut que l'Église domine, soit vaincue. Puissante, tout ça, balaye tous les ennemis, gouverne le pays. Attention, attention, là, il y a quelque chose du cœur de l'homme qui aime la puissance et la domination et qui n'est pas de Dieu. Et le Seigneur Jésus, il a dit, quand il parle des autorités, elles sont là pour servir. Le gouvernement de Dieu, l'autorité de Dieu se manifeste toujours dans un esprit de service. Et c'est ça qui te fait distinguer si cette autorité, elle vient de Dieu ou si elle ne vient pas de Dieu. Ça, je peux t'assurer. C'est l'esprit de service. Et moi, je bénis le Seigneur pour l'esprit de service que je vois dans nos politiques, déjà avant. Et ça, quand on voit ça quelque part, eh bien, on dit merci Seigneur pour ça. Et je peux en dire, dans nos deux candidats, il y avait un amour de la France qui était là. Et bien, que cet amour de la France grandisse, mais cet amour de Dieu, bien sûr, grandisse encore plus. Bien encore plus. Moi, je dis merci Seigneur pour ce qui est arrivé. Quand je peux vous dire, j'ai vu des témoignages de nos politiques par rapport à Dieu. Il y en a un qui disait, de toute façon, ça ne sert à rien que je réponde à vos questions parce que Dieu n'existe pas, etc. Moi, je veux dire, c'est difficile de gouverner avec cette mentalité-là. Hein. Moi, je préfère quelqu'un qui dit, moi, je crois en Dieu, je le respecte, même si je ne le connais pas vraiment. Hein. Donc voilà, accompagnons maintenant dans la prière, dans l'intercession et dans l'exercice du gouvernement que Dieu nous donne. Tu peux aider ton pays quand tu gouvernes sur ta vie et quand tu pries avec autorité et que tu es là, bien campé, pas à part. Mais quand tu es dans l'Église, enraciné, implanté, tu sais qui tu es, tu sais en qui tu as cru, tu sais où tu vas, tu sais que tu n'es pas tout seul, tu sais que tu fais partie d'un temple et d'une muraille, alors là, je peux t'assurer, ça porte. Donc ne le laisse jamais mis sur la touche, ne baisse jamais les bras et reste dans ce corps parce que l'Église, elle est cette épouse bien gentille, nice church, hein, comme on dit, gentille, tout ça, mais elle est aussi terrible comme une armée sous la bannière. Et il y a les deux, gentille petite église, et en même temps, attention, ça déménage. Alors ici, c'est vrai que parfois, c'est plutôt souvent, ça déménage, quoi. Hein, voilà. Mais il y a les deux. Donc que le Seigneur nous aide. Et plus grande sera notre intimité avec Dieu, en tant qu'épouse de Christ, plus grande sera notre férocité par rapport à l'ennemi et aux œuvres du diable. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons être ces mains qui accompagnent nos princes et nos rois pour lancer des flèches de délivrance dans ce pays. Et Seigneur, tu fais grandir ton autorité en nous, le gouvernement de ton Église. Et Seigneur, nous croyons que le règne que tu veux établir n'est pas de ce monde, mais que ce règne, il vient de toi, mais en même temps, tu veux l'exprimer au travers de nous, non pas dans un esprit de puissance et de domination, mais dans un esprit d'amour, de pacifique, de sagesse et de service, Seigneur. Et nous voulons, avec ce que tu nous donnes, te servir, toi, en servant nos frères et sœurs et en servant aussi notre pays, dans la prière, dans l'adoration, dans le combat quand il faut. Seigneur, encourage chacun d'entre nous et merci, Seigneur, pour la belle équipe et la belle famille que nous formons. Au nom de Jésus, amen. Amen. Soyez bénis.
Je crois qu'on veut vraiment se laisser interpeller parce que lui...